Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Bonsoir à tous. Emmanuel Macron manque-t-il de fermeté avec les puissants de ce monde? C'est le débat du jour sur Radio France Internationale. Soyez les bienvenus. À peine élu, le président français a entamé son mandat à tambour battant en termes de politique étrangère. En un an, 43 voyages officiels à l'étranger. Très vite, Emmanuel Macron déroule le tapis rouge à Vladimir Poutine en l'invitant au château de Versailles. C'était il y a un an. Puis il accueille Donald Trump pour le 14 juillet à Paris, le président américain qu'il présente depuis comme son ami. On se souvient aussi de l'ovation qu'Emmanuel Macron a reçue au forum de Davos devant un parterre de grands patrons internationaux où il avait scandé « France is back ». Bref, avec peu d'expérience, Emmanuel Macron imprime son style, chaleureuses accolades avec ses hôtes, sourire, selfie, mais pour quel résultat sur le fond ? Pour en débattre, deux invités. Michel Duclos, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes ancien ambassadeur de France, notamment vous avez exercé en Syrie. Aujourd'hui, vous êtes conseiller spécial à l'Institut Montaigne, un groupe de réflexion français. Manuel Lafont-Rapnouille, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur du bureau de Paris de l'ECFR, le Conseil européen des relations internationales. Tout d'abord, dites-nous ce que vous pensez de la stratégie d'Emmanuel Macron depuis un an sur son action diplomatique, Manuel Lafont-Rapnouille.
Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a un premier élément sur la forme, c'est ce que vous avez évoqué avec cette idée du retour de la France. Il a fait campagne en trouvant que sous François Hollande, la France avait perdu de son rang et de son audience, et donc il a cherché à remettre la France dans le jeu, et notamment remettre la France dans le jeu d'égal à égal avec les grandes puissances. D'où le fait d'avoir vu Poutine, vu Trump, mais aussi Xi Jinping, d'être allé en Inde. Il a beaucoup voyagé, et c'est un autre élément en termes de forme, c'est l'implication personnelle et l'importance des relations personnelles. Il faut pas confondre les relations personnelles avec le fait qu'on va se mettre d'accord sur tout, etc. Mais il joue beaucoup de cet aspect-là, de son charisme et de sa relation avec ses homologues. Sur le fond, il le répète à chaque fois qu'il en a l'occasion. Une première priorité évidente, très claire, c'est la sécurité, et en matière de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, les intérêts de sécurité de la France. Et plus largement, il a un arrière-plan sur l'idée que l'ordre multilatéral actuel est fragile et fragilisé, et qu'il faut contribuer à le renforcer, à le consolider, à le préserver.
Michel Duclos, quel avis également sur la politique étrangère depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron ?
Je crois qu'effectivement, Emmanuel Macron a renoué avec une tradition française qui est d'avoir une politique étrangère de haute visibilité. Ça ne veut pas dire qu'il a imprimé une rupture sur le fond, bien sûr. Mais il a eu le souci de retrouver ce que le général de Gaulle appelait le rang de la France. Alors là, soyons clairs. Quand on dit la France est de retour, c'est un petit peu excessif, puisque sous Hollande, on avait fait l'intervention au Mali ou la COP21, c'était pas si mal. Mais c'est vrai que de proche en proche, un certain nombre de positions qui à chaque fois étaient justifiées de la part de François Hollande l'avaient amené à ne plus trop parler à tel ou tel interlocuteur. Alors d'abord la Russie. Ensuite, Obama, c'était quelqu'un avec lequel il était difficile d'avoir un vrai dialogue. Et puis Hollande, pour des raisons que je dois dire, je ne m'explique pas beaucoup, avait un peu délaissé la politique européenne. Et Macron, à juste titre, s'est réimpliqué très fortement en Europe. C'est quand même ça le principal élément. Et il a fait le choix de reparler immédiatement, comme vous l'avez dit, à Poutine. Et auparavant, c'est dans votre chronologie, vous étiez un petit peu trompé, il s'était longuement embrassé avec Trump, qui lui est apparu comme un personnage avec lequel il fallait essayer au moins d'avoir un dialogue.
Alors avec Vladimir Poutine, en l'occurrence Emmanuel Macron est en Russie depuis aujourd'hui et pour deux jours, accueilli par son homologue russe. Le président français doit assister notamment au Forum économique international à Saint-Pétersbourg. Michel Duclos, que doit-on attendre de la visite d'Emmanuel Macron en Russie ?
Je vous dirais, comme tous les professionnels, il ne faut pas avoir trop d'attentes. C'est-à-dire, il ne faut pas s'imaginer qu'en l'espace d'une journée, on peut effacer les différences très profondes qui nous séparent de la Russie, d'autant plus que Macron, justement, c'est à mettre à son crédit, n'hésite pas à marquer ces différences. Il l'avait fait à Versailles, et je pense que là, il va à nouveau marquer un certain nombre de points forts dans les désaccords que nous avons avec la Russie. Ce qu'on peut en attendre, c'est dans l'immédiat, sans doute, un peu plus de concertation sur la gestion des crises au Proche-Orient, mais surtout plus en profondeur, c'est justement établir avec ce personnage qui est encore là pour longtemps, Poutine, un dialogue qu'il n'a plus avec pratiquement aucun de ses homologues occidentaux, puisque avec Trump il est dans l'incapacité d'avoir ce type de dialogue, et avec Madame Merkel ça se passe pas très bien. Avec May, c'était avec le Premier ministre britannique, c'est absolument impossible. Donc Macron de facto et l'homme de l'Occident qui peut parler à Poutine.
Et pourtant, et donc, il y a de nombreux points de désaccord, hein, sur la guerre en Syrie, l'attitude russe en Ukraine, l'affaire Skripal. Alors sur le dossier syrien, en quoi Emmanuel Macron peut-il influencer Vladimir Poutine, le président russe, qui soutient le président syrien Bachar el-Assad, Manuel Lafont-Rapnouille?
C'est un très bon exemple, la Syrie, du fait qu'à mon avis, c'est pas juste pour des raisons diplomatiques qu'il faut pas trop attendre de cette réunion à Saint-Pétersbourg, c'est que ça sera très difficile d'arriver à un résultat. Il y a un an, Emmanuel Macron avait, sur le dossier syrien, posé ce qu'il avait lui-même considéré, appelé comme deux lignes rouges. La première, c'était sur l'emploi d'armes chimiques, et la deuxième, c'était sur le fait qu'il fallait améliorer l'accès humanitaire pour les populations civiles. Le moins qu'on puisse dire, c'est que si ça a évolué sur ces deux fronts, c'est plutôt dans un sens négatif que dans un sens positif. Et je pense que Emmanuel Macron est parti à Saint-Pétersbourg rencontrer Poutine avec une vraie frustration là-dessus. Frustration d'autant plus qu'il n'a pas reçu tellement de soutien des autres dont il aurait pu recevoir de soutien vis-à-vis de Poutine sur ces dossiers-là, que ce soit les pays de la région ou que ce soit les États-Unis. Et les frappes suite à l'attaque chimique de Douma, les frappes auxquelles les Français ont participé avec les Britanniques et les Américains, ont montré une grande fermeté, puisque c'est un des thèmes du jour, mais ce que ça a produit derrière en tant que résultat, ça reste à voir, et pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il y ait de grandes chances que ça ait ébranlé tellement Vladimir Poutine. Peut-être que Vladimir Poutine, comme le disait Michel Duclos, a l'intention d'utiliser la France comme un des ponts possibles vers des relations améliorées avec les pays occidentaux. Je suis pas sûr que ça soit le meilleur calcul qu'il puisse faire, mais en tout cas, s'il le fait, il le fera de façon très instrumentale, et je ne crois pas que ça conduira Vladimir Poutine à des concessions sur la Syrie. Je pense qu'il y a d'autres dossiers éventuellement sur lesquels ils peuvent se retrouver, mais pas celui-là.
Michel Duclos.
Non, effectivement, sur la Syrie, il y a très peu de marge de manœuvre. En revanche, sur l'Iran, c'est pas impossible qu'il y ait des convergences qui apparaissent.
Quand vous dites l'Iran, c'est
l'accord
sur le nucléaire. Alors justement, Donald Trump, peut-on parler justement d'échec quand on voit la décision de retrait des États-Unis de l'accord du nucléaire sur le nucléaire en Iran, le retrait de Donald Trump de l'accord sur le climat, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, autant de sujets qui les séparent et où Emmanuel Macron n'a pas réussi à faire changer d'avis Donald Trump?
C'est vrai, je crois que Macron a traité Trump comme un banquier d'affaires traite un client difficile, mais qui est un gros client, donc il faut faire avec. Et je ne suis pas sûr qu'il ait eu beaucoup d'ambition. Il ne s'attendait sans doute pas à retourner le président américain. Mais c'est vrai que ne serait-ce que dans la forme, malgré tout, ces efforts de séduction ou de conviction, comme on veut, ont été particulièrement mal récompensés par Trump.
Manuel Lafont-Rapnouille, sur cette même
question. Moi, j'ai pas de problème. On en a beaucoup parlé des démonstrations peut-être excessives de convivialité avec Trump. Je pense pas que ce soit une erreur. Ça aurait été une erreur si Macron en avait attendu des résultats, mais je crois pas que c'était le cas. Et je pense que l'idée est plutôt de préparer justement la phase dans laquelle on est. La différence parmi les différents crises ou tensions ou raisons de tension que vous avez citées, c'est que jusqu'à présent, en matière commercial, sur le climat, sur le Proche-Orient, en gros, on pouvait être d'accord pour ne pas être d'accord et considérer que chacun continue à mener sa politique de son côté. La difficulté avec l'Iran, c'est que la politique américaine ne permet pas aux Européens de mener leur politique de leur côté. Elle considère que si les Européens veulent continuer à rester dans l'accord nucléaire de 2015 et développer leurs relations économiques avec l'Iran, comme l'accord le permet et comme la logique de l'accord le recommande, la politique américaine est de sanctionner les Européens et de sanctionner les entreprises européennes et de les dissuader de le faire avant même qu'elles commencent à le faire. Et donc là, on rentre dans une zone où c'est plus juste un problème de « on n'est pas d'accord, mais on peut vivre avec nos désaccords ». On est dans une zone où il y a potentiellement une confrontation, et je pense qu'il y a un certain nombre de précédents qui nous rappellent que pour résister à une telle confrontation, il est bon que les Européens soient unis, et pour que les Européens soient unis, il est bon que la France évite de donner l'impression, la France en particulier, évite de donner l'impression que c'est elle qui cherche la confrontation. On voit bien aujourd'hui les trois principaux Européens sur ce dossier, les Britanniques, les Allemands et les Français, être d'accord pour afficher à la fois une grande fermeté, toujours ce même sujet, face à la politique américaine, mais une fermeté qui ne passe pas, qui ne bascule pas vers la confrontation active. S'il y a confrontation, s'il y a tension, il faut que ça soit du fait des Américains et pas du fait des Européens.
Qui sont les puissants, d'après vous, les élus ou alors les chefs d'entreprise, et pensez-vous qu'Emmanuel Macron puisse être aussi ferme, par exemple, avec Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, qu'il a reçu hier à l'Élysée, empêtré dans un scandale de divulgation d'informations?
Si vous voulez, je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Manuel. Je crois que c'est très important. On raisonne toujours en termes de unilatéralisme américain contre multilatéralisme. Et c'était vrai encore, effectivement, sur l'affaire du climat ou sur d'autres affaires. Avec l'accord sur l'Iran, ce n'est plus de l'unilatéralisme, c'est de l'impérialisme, le bon vieux impérialisme, puisque ça consiste effectivement à imposer aux Européens ou aux autres ce qu'ils doivent faire. Et là, je ne crois pas que les Européens vont être en mesure effectivement de se lancer dans une confrontation du jour au lendemain, mais ce qu'il faut espérer, c'est que ça provoque un choc économique, un choc psychologique, qui convainque les Européens de la nécessité de remédier aux déficiences de la souveraineté économique européenne. Or ça, la nécessité de retrouver une souveraineté au niveau européen, c'est un thème typiquement macronien. Et il me semble que dans le caractère très très fâcheux, voire très dangereux de ce qui se passe en ce moment, il y a cet élément qui peut être positif. Ça peut être une opportunité pour le président de la République de faire prendre conscience, de mobiliser les Européens sur cet agenda de correction de l'absence de souveraineté économique de l'Europe.
Sur la notion des puissants de ce monde, qui sont-ils? C'est ça ma question. Les élus ou les chefs d'entreprise?
Justement, les histoires, les différents sujets sur lesquels il y a des discussions à avoir avec des chefs d'entreprise comme Zuckerberg sur Facebook ou d'autres sont liés aussi à ce que Michel Duclos vient de décrire. La question de la souveraineté, c'est aussi la souveraineté numérique, qui est propriétaire des données, qui respecte quelles régulations, les sujets sur la manipulation de l'information, qui est un sujet sur lequel le gouvernement français, pardon, justement, pas les entreprises, se sont engagés. Évidemment, on vit dans un environnement qui, sur le plan économique, s'est libéralisé, qui donne beaucoup plus de poids et de puissance et de latitude aux entreprises, mais on voit bien que les entreprises souhaitent que le gouvernement intervienne, les entreprises européennes souhaitent que les gouvernements européens interviennent pour les protéger des éventuelles sanctions américaines. On voit bien que Facebook ou d'autres entreprises de l'Internet considèrent que les manipulations de l'information, il ne faudrait pas leur faire complètement porter le chapeau et qu'ils ont besoin d'une certaine manière d'une régulation publique, d'une intervention gouvernementale pour pouvoir traiter un certain nombre de sujets. Et les gouvernements eux-mêmes ressentent le besoin de reprendre une certaine forme de contrôle sur un certain nombre de champs qui ont été ouverts par ces différentes libéralisations, que ce soit la libéralisation économique ou la libéralisation de l'Internet et des échanges d'informations.
Le débat du jour sur RFI.
Avec Manuel Lafont-Rapnouille, directeur du bureau de Paris de l'ECFR, le Conseil européen des relations internationales, et puis Michel Duclos, ancien ambassadeur de France, notamment en Syrie, et conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Nous nous interrogeons sur Emmanuel Macron. Manque-t-il de fermeté avec les puissants de ce monde? Gros plan à présent sur l'Europe, un des sujets de prédilection d'Emmanuel Macron. Il déclarait « Nous appartient, nous, en tant qu'Européens, de défendre les biens communs de ce continent, à savoir un monde libre, la démocratie, la paix et le climat ». Là aussi, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, arrive-t-il aujourd'hui à fédérer l'Europe, Michel Duclos?
Manifestement, il a beaucoup de mal. Et il a sa chance habituelle, légendaire, lui a fait défaut, puisque il n'a pas pu compter sur un gouvernement allemand aussi cohérent et aussi favorable à ses thèses qu'il avait pu l'escompter tout très légitimement. Et ce qui est important, je crois, c'est que non seulement les Allemands n'étaient pas là au rendez-vous, mais le temps que ça a pris pour que finalement un gouvernement allemand se constitue, d'autres oppositions aux idées de Macron, ambitieuses, ont eu le temps de se cristalliser. Et maintenant que les Allemands sont à peu près en ordre de bataille, on a vu que l'Europe d'honneur, notamment, s'est constituée un peu en front de l'opposition contre les idées de réforme de la zone euro qu'avait qu'a toujours le président de la République. Et donc, c'est vrai qu'on dit, ce mot anglais qui est affreux, c'est le « momentum », mais M. Macron n'a pas bénéficié d'un momentum favorable. Il a au contraire dû souffrir d'un momentum négatif qui va maintenant s'aggraver, bien sûr, avec ce qui se passe en Italie.
Emmanuel Lafont-Rapnouy.
Ce que vient de décrire Michel Duclos, c'est exact sur les affaires internes à l'Union européenne. La gouvernance de la zone euro, la révision de la directive des travailleurs détachés, qui est quand même un des quelques succès qu'il a réussi à engranger, la gestion du Brexit, la question de la réforme de l'asile. Et c'est sûr que par rapport à l'amplitude, à l'ampleur, à l'ambition du programme, des intentions affichées, notamment au discours de la Sorbonne, le résultat est décevant. Et il est décevant un peu faute de partenaires. Et moi, ce qui me frappe par rapport au sujet dont on parlait juste avant, c'est que ce très très fort engagement du président de la République sur les questions européennes, il a très peu de répondants sur le côté de la politique étrangère, de la politique internationale. Comme je le disais au début, sur la politique internationale, sur tous les sujets dont on vient de parler, l'Iran, la Syrie et d'autres, on voit Emmanuel Macron avoir une politique de grande puissance nationale, quelque chose de très gaullien, pour plein de raisons, dont celle évoquée par Michel tout à l'heure, mais notamment cet aspect de c'est la politique de la France, et la France a une voix, un rôle à jouer, un statut à part, et donc on joue notre carte sur le plan national. Or, on se retrouve sur des tas de sujets en difficulté face à des partenaires qui n'ont pas l'intention de coopérer, qui n'ont pas l'intention de jouer un jeu multilatéral, que ça soit sur le commerce, que ça soit sur l'Iran, que ça soit même sur la Syrie et d'autres sujets encore, le climat, et on se retrouve un peu justement en manque de coordination et d'unité et de visée stratégique commune aux Européens sur ces sujets-là.
Alors, est-ce que vous voulez dire par là que tant qu'il n'aura pas réglé les différents problèmes de la France, il ne pourra pas s'imposer au niveau européen ?
C'est un des arguments avec lesquels il est arrivé. Il a dit d'une part qu'il savait que les partenaires européens ne faisaient plus crédit à la France et qu'il fallait que la France se réforme pour que les partenaires européens acceptent de coopérer, et que de toute façon il considérait que c'était pas pour ça qu'il fallait que la France se réforme, mais que la France devait se réformer pour elle-même, pour être plus forte, pour être plus entendue. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, typiquement sur la réforme de la zone euro et avec les Allemands, on voit bien que ça n'est pas parce que les réformes sont commencées et que les réformes sont initiées que les Allemands ont complètement changé d'avis sur le fond de ce qu'il faut faire, par exemple sur la gouvernance de la zone euro.
Michel Duclos.
Alors, il ne faut pas créer de malentendus avec vos interlocuteurs, avec vos auditeurs. Ça ne veut pas dire que c'est fini, que Macron a perdu, etc.
Non, ça fait un an qu'il est élu.
Ça fait qu'un an. Et la politique européenne, c'est particulièrement lent à mettre en place ou à bouger. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu étrange, de paradoxal dans ce président très pro-européen qui ne joue pas tellement l'Europe au plan international. Et c'est probablement quelque chose qu'il va devoir corriger dans les mois qui viennent.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus participer à ce débat. Je rappelle à nos auditeurs Michel Duclos, ancien ambassadeur de France, conseiller spécial de l'Institut Montaigne, et puis Emmanuel Lafont-Rapnouy, directeur du bureau de Paris du Conseil européen des relations internationales en français. Mise en onde, merci à Hélène Avril, merci également à Florence Ponce et Charles Barr qui m'ont aidé à préparer cette émission. Lundi, vous retrouverez Nathanaël Vitran pour un tout autre sujet sur les banlieues en France.